RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et depuis déjà quelques mois en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Alors nous avons tous en tête les manifestations d'agriculteurs, de gilets jaunes, de bonnets rouges, de retraités, d'antivax. Nous avons en tête les violences des émeutes urbaines, nous avons en tête les assauts sur les méga-bassines de Sainte-Soline. Ce pays a-t-il toujours été aussi éruptif? La nature de la France est-elle volcanique? C'est une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Et en tout cas, c'est une thèse qui est défendue, qui est proposée par notre invité aujourd'hui, Christophe Barbier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes connu comme journaliste politique, mais vous êtes également comédien, critique dramatique. En ce moment, pour l'anecdote, vous êtes tous les soirs, c'est ça, au Théâtre de Poche
tous
à Paris.
Tous les lundis.
Tous les lundis au Théâtre de Poche à Paris, à l'affiche et sur scène pour un spectacle musical intitulé Mozart, mon amour. Mais nous allons avec vous parler d'histoire et de politique. À vos yeux, les Français ne sont pas un peuple qui se met parfois en colère, ils forment un peuple de colère. Et les colères d'aujourd'hui entrent en résonance avec celles des temps passés. Et donc nous allons voir avec vous, nous allons remonter l'histoire, nous allons essayer de raconter les insurrections d'hier qui permettent aussi de comprendre, peut-être, on va voir, celles de demain. En studio également, François Ehrenwein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien rédacteur en chef à La Croix, passionné de politique depuis une trentaine d'années, un peu comme Christophe Barbier. Et donc, voilà, nous allons tenter ensemble de répondre à la question « Les Français sont-ils un peuple de colère ?»
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Christophe Barbier, votre livre s'intitule « Peuple de colère », »,« Peuple au singulier »,« Colère au pluriel », c'est chez Fayard. Et donc, vous expliquez que les émeutes oubliées des siècles lointains, on trouve là-dedans les racines des soulèvements d'aujourd'hui. Ces soulèvements ne viennent pas de nulle part. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler cette hypothèse, Christophe Barbier ?
Ça a commencé au moment des Gilets jaunes,
oui.
Quand un peu par hasard, je suis tombé sur le récit de l'épisode des Cabochiens, donc la révolte menée par Simon Caboche, que je vous raconterai, leader des bouchers, et je trouvais des similitudes frappantes entre ces deux révoltes, à la fois dans leur manifestation et dans leur échec.
Les Cabochiens, c'est en 1413.
1413, ouais. Vous voyez, c'est pas d'hier, mais on trouvait des similitudes non seulement dans le comportement des émeutiers, mais aussi dans les faiblesses de la France au même moment. Et je me suis rendu compte que l'histoire de France est tissée comme cela, par le fil de la révolte, avec souvent des scénarios qui se ressemblent, qui se répètent. Et en creusant un peu, j'ai trouvé des tas d'autres exemples.
Ça fonctionne.
Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment notre ADN. Les étrangers s'étonnent régulièrement chaque fois qu'il y a des manifestations en France. Mais qu'est-ce que c'est que ces Français, les fameux Gaulois, les réfractaires. Ouais. Mais il ne faut pas s'en étonner. Il faut arrêter de s'étonner parce que c'est notre ADN. Je pense même que la colère existait avant la France. C'est-à-dire avant que la France ne se constitue en État. Dans ce gros Moyen-Âge de constitution de l'État central, la colère était déjà le mode de fonctionnement de la plupart de nos régions et de la relation au pouvoir, qu'il soit local ou central.
Oui, vous écrivez, Christophe Barbier, plutôt que le compromis, les Français cherchent le conflit. Plus que les points d'équilibre, ils affectionnent les ruptures.
Voilà, on ne cherche pas à se mettre d'accord avant, pour éviter le conflit, pour éviter la rupture. On considère que le conflit, le rapport de force, la rupture sont des passages obligés.
C'est ça.
Et que s'il doit y avoir consensus, ça sera après, et il sera fragile, bien entendu, jusqu'à l'éruption.
Et il sera remis en cause.
Voilà, il sera remis en cause. Nous sommes en fait une terre volcanique. Donc les volcans ne sont pas en éruption permanente, ils sont en éruption récurrente. C'est comme ça que fonctionne la France, et entre deux éruptions, il y a des moments de calme.
Oui, enfin, il n'y en a pas beaucoup en ce moment quand même.
Pas beaucoup, c'est vrai.
Alors François Ehrenwein, vous avez observé la vie politique, depuis plus de 30 ans. On va dérouler cette hypothèse et on va voir les différents épisodes sur lesquels s'appuie le travail de Christophe Barbier. Mais globalement, comment vous réagissez à cette hypothèse?
J'ai lu le livre de Christophe avec énormément d'intérêt. C'est un très beau catalogue des révoltes françaises au fil des siècles et c'est proprement passionnant. Après, on contemple le tableau. Et puis, Alfred Grosser, un de mes maîtres récemment disparu, ancrait sa réflexion sur le comparatisme. Et je me suis fait la réflexion suivante. On prend la Grande-Bretagne, l'Allemagne, L'histoire de ces pays, et d'ailleurs vous le notez dans votre livre, l'histoire de ces pays est parcourue aussi de révoltes sanglantes, de têtes coupées, enfin, il se passe pas rien. Je prends l'Allemagne, pays que je connais un peu, il y a un très beau livre de Kleist, Matthias Kohlhaus, qui raconte la révolte de quelqu'un victime d'une injustice. Il y a d'ailleurs un film de De Palière tiré de Matthias Kohlhaus. Et puis il y a la guerre des paysans. Et puis quand vous évoquez la dimension religieuse des ruptures, ben Luther, c'est quand même une rupture.
Oui, alors on va en parler évidemment, parce que c'est une partie importante
Allemagne.
Du livre.
Donc
c'est pas que chez nous.
La thèse est séduisante. La gestion française de tout ça est intéressante. Effectivement, au fil des siècles, on voit bien tout ça. Et puis l'autre aspect des choses, c'est sur la nature même de la démocratie française. Vous utilisiez le mot de compromis. Mmh. Bah, la dynamique, ou de consensus plutôt, la démocratie peut être rugueuse. On n'a pas besoin de vivre une démocratie apaisée, roupillante, etc.
Ce serait pas mal quand même.
Le conflit est intéressant en démocratie.
Oui. Il est fécond, en tout cas.
Il est fécond, mais la conséquence, est-ce qu'on finit par chercher le compromis ? Et là, je pense que, dans la culture politique, en tous les cas contemporaine, la France est largement en retard par rapport à d'autres démocraties apaisées. Mm-hmm. C'est pour ça que votre remarque, elle est juste.
Oui, Christophe Barbier.
C'est vrai que le comportement par révolte est commun à une bonne partie de l'Europe occidentale à travers ces siècles. On a les Forconi en Italie en 2013, ça annonce les gilets jaunes, c'est les fourches. Oui. On a les faucheurs dans la Catalogne espagnole, qui est exactement le reflet, le miroir, le symétrique des Anglais de la Catalogne française à la fin du XVIIe. Et les rustos que vous évoquiez du côté des Allemands. Néanmoins, au fur et à mesure des siècles, les autres ont tiré des leçons. Par exemple, avec l'âge industriel, les Allemands ont construit cette culture du dialogue social, syndical, la co-gestion. Nous, on est passé à côté. Les Britanniques ont une histoire très compliquée.
Avec une grosse bavure, quand même, le nazisme a été possible en Allemagne.
Exactement. Oui. Peut-être que la révolte permanente est aussi un vaccin contre des bascules aussi tragiques que celles du nazisme.
Ça, c'est intéressant.
Oui. De la même manière que je pense qu'aujourd'hui, si on est sorti, à mon sens, de l'âge des révolutions, renverser le régime, tout casser, faire table rase, ça ne me semble plus la volonté profonde des Français. Les révoltes n'en sont que renforcées. Puisqu'on ne se révolutionne plus, on va se révolter de plus en plus souvent. Néanmoins, sur la démocratie, c'est vrai que la démocratie doit être bouillonnante pour être féconde. Sinon, c'est un gros ennui. Oui, le peuple a sa colère et le volcan sa lave qui dévaste d'abord et qui féconde après. C'est Victor Hugo qui disait cela. Donc il donnait cette fécondité de la révolte. La révolte, elle se canalise par la démocratie représentative. On s'engueule à l'Assemblée, dans l'hémicycle, c'est le tohu-bohu, la bordélisation, comme dirait Darmanin. Oui. Mais au moins, il en sort quelque chose. Sauf que ça, c'est un peu coincé aujourd'hui, il en sort plus grand-chose. Et les Français s'en viennent à douter de cette sublimation ou de ce transfert où la démocratie représentative vraiment animée, voire violente, servait
les Français
d'exutoire.
Fatigues,
Les Français sont désespérés de ça.
Définition même de la démocratie, on met souvent l'accent sur les procédures, le vote, etc., pour caractériser la démocratie. Mais la démocratie, essentiellement, en philosophie politique, c'est une éthique de la discussion. C'est-à-dire, on accepte de ne pas être d'accord et on essaye de fabriquer des compromis. Et ça, c'est une démocratie féconde, ce que vous évoquiez à l'instant.
Alors, on va remonter le cours de l'histoire avec un premier épisode. Nous sommes en 2013. En 2013, c'est l'épisode des bonnets rouges. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, Christophe Barbier ?
En 2013, les gouvernements, parce que ça avait été voté à une large majorité, décident l'écotaxe. L'écotaxe, rappelez-vous, c'est ces fameux portiques. On va flasher les plaques d'immatriculation et les camions, certains
des
types
poids lourds,
de transport, seront taxés.
Ouais.
Révolte. Notamment en Bretagne.
Surtout en Bretagne.
En Bretagne. Il y en a eu un peu ailleurs. Contre ces portiques, on les démonte, on les détruit, on les brûle. Et on s'affuble d'un bonnet rouge pour montrer sa solidarité avec ce mouvement qui est un mélange de révolte d'éleveurs, de transporteurs et globalement du monde rural breton.
Voilà. C'est donc la Bretagne qui s'est mise à l'arrêt en quelque sorte, qui s'est révoltée, qui s'est réclamée de cet héritage des bonnets rouges en 1675. Alors on va écouter Ségolène Royal qui à l'époque était donc en charge de l'environnement, sauf erreur de ma part, et donc qui explique aux Bretons que tout va s'arranger. On l'écoute.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
L'écotaxe est morte et enterrée.
Oui, on peut dire cela.
Avec une nouvelle version, un péage de transit sur 4000 km de route au lieu de 15 000. Alors c'est toujours l'écotaxe, mais en version rikiki.
Non, c'est une solution à la fois équilibrée et de bon sens.
puisque sont ciblées les routes, les grands axes de transit sur lesquels circulent plus de 2500 camions par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, 2500 camions par jour, de camions essentiellement donc du transit international qui aujourd'hui ne payait rien, c'est-à-dire c'est le contribuable français qui payait l'entretien des routes utilisées par ces camions. Et aujourd'hui, ces camions vont être mis à contribution, c'est-à-dire qu'ils vont désormais ne plus avoir intérêt à quitter les autoroutes payantes pour venir sur des routes qui étaient gratuites et qui étaient défoncées par le poids de ces camions de plus de 3,5 tonnes. Je connais bien la Nationale 10, les camions sont quasiment à touche-touche et ils prenaient la Nationale 10 parce qu'il y a une autoroute parallèle qui, elle, est payante. Donc ça remet de la cohérence, de la logique et ça applique le principe utilisateur-payeur.
Cette taxe, ces péages vont rapporter combien dans les caisses de l'État ?
C'est pas dans les caisses de l'État, hein, c'est dans un fonds spécial qui sert justement à faire les travaux sur les routes.
Pour les infrastructures routières, oui.
Pour les infrastructures routières, pour les équipements de transport propre dans les villes, pour le fret ferroviaire, c'est pour encourager aussi le transport des marchandises par train.
D'où l'inquiétude de ceux qui devaient bénéficier de cet argent pour ces infrastructures, donc ça va rapporter combien ?
500 millions d'euros.
500 millions d'euros, voilà. Donc la moitié au lieu d'un milliard.
Eh bien écoutez, faisons déjà 500 millions d'euros de travaux, ça donnera du travail aux entreprises des travaux publics, engageons-les rapidement pour améliorer nos équipements et nos grandes infrastructures.
Mais c'est un produit.
Voilà, c'était Ségolène Royal donc en 2013 qui répondait aux questions de Patrick Cohen sur France Inter. C'était déjà un rétropédalage écologique, Christophe Barbier ?
Ah oui, bien sûr, c'était une marche arrière toute. Ouais. Cela dit, elle n'avait pas le choix, la situation était bloquée, elle était arrivée pour éteindre l'incendie, elle l'a fait. À un moment donné, il faut que l'État prenne sa perte et puis change. C'est la grande différence avec les bonnets rouges de 1675.
Alors, racontez-nous.
Ah, on part du même principe. Oui. Là, c'est l'écotaxe. En 1675, c'est une taxe supplémentaire que Colbert invente sur le papier timbré. Il faut faire rentrer de l'argent pour financer les guerres du roi. La Bretagne se révolte parce que le Parlement breton est court-circuité. Alors que dans l'acte d'union entre la France et la Bretagne, il devait y avoir consultation
du Parlement breton. Oui, c'était extrêmement important.
Donc c'était extrêmement important. Ouais. Donc on piétine l'identité bretonne, la fierté bretonne, en même temps qu'on taxe les populations. S'ajoute à cela une troisième dimension qu'on retrouve aussi en 2013. C'est la crise économique. En 1675, c'est la crise de tout ce qui est production de toile pour les voiles de bateaux. Et en 2013, c'est la crise de la filière des éleveurs porcins. Ils sont en pleine crise. Mmh. Donc le substrat économique de la région est fragilisé. On insulte leur identité en piétinant leur spécificité et on les taxe.
Donc l'économie, l'identité et l'impôt.
Et l'impôt. Et ça fait le cocktail de la révolte. Ouais. Avec le même symbole qu'on retrouve, les bonnets rouges. En 1675, il y avait les bonnets rouges et les bonnets bleus aussi du côté de Quimper. Là, c'est le rouge qui l'importe en 2013. Et le bonnet rouge, c'est cela. C'est un mélange de révolte de fierté. Qui sommes-nous ? Et de révolte économique. Que pouvons-nous payer ? Que voulons-nous payer ? La différence, c'est qu'à l'époque, en 1675, c'est une répression terrible qui s'abat sur la Bretagne. On va même à un moment donné jusqu'à déterrer le cadavre du leader de la révolte qui a été assassiné par un aristocrate local pour le dépecer et l'exhiber, lui faire une sorte de procès posthume. Ségolène Royal a des méthodes quand même plus douces.
Oui, la République est plus douce que l'ancien régime.
Voilà,
quand
il y a
même.
Quand même des interventions de gendarmes mobiles sur les portiques pour les dégager. Mais enfin, quand même, il y a moins de dégâts. La répression s'est adoucie. En gros, le gouvernement cède et puis il fait payer autrement par d'autres l'argent qu'il voulait récupérer.
Alors, il y a eu d'autres épisodes. Par exemple, en 1382, trois siècles plus tôt, les Maillotins. Alors, les Maillotins, vous faites une analogie avec la porte-maillot, c'est
oui,
bien
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Une partie des historiens pensent que le nom de la porte-maillot vient de ces Maillotins.
C'était
une révolte
à Paris, hein,
à Paris donc entre Neuilly et Paris. Les Maillotins se sont révoltés en 1382, là aussi pour une raison fiscale. Ils ont envahi l'hôtel de ville et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Des maillets.
Oui.
Il y avait des maillets de plomb destinés à la protection de la ville et sur les remparts. Ils se sont emparés de ces maillets, quelques milliers, certains disent plusieurs dizaines de milliers, et c'est devenu leur arme. Et les Maillotins ont pris le pouvoir dans la ville. Sauf que quand le roi est revenu d'une campagne en Flandre, les Maillotins qui n'avaient pas d'organisation politique, finalement, se sont un peu rendus au roi. Ils lui ont rendu les honneurs. Le roi ne l'a pas entendu de cette façon, parce que la révolte était là. Il a d'ailleurs fait percer une brèche pour rentrer dans Paris, non pas par une porte comme s'il était invité, mais par une brèche comme s'il prenait la ville, et la répression s'est abattue.
Là aussi,
la répression s'est abattue, on a toujours le même cocktail.
Oui.
Excès fiscal, révolte, répression. Mais après la répression, le pouvoir n'est pas idiot. Il revient sur la taxe qui a été décidée. Il annule la réforme qui a été impopulaire. Il réprime d'abord, mais il concède ensuite. Et on va chercher un autre chemin pour gérer le conflit.
Ce que vous décrivez là, Christophe Barbier, c'est en quelque sorte un moteur à explosion. Admission, compression, explosion,
exactement.
Détente.
Exactement. C'est un moteur à explosion qui fait avancer le véhicule France depuis le Moyen-Âge, depuis la guerre de Cent Ans ou un peu avant les Maillotins, il y a eu Étienne Marcel, il y a eu la Grande Jacquerie. Donc on voit les révoltes prendre leur structure. Révolte urbaine, souvent très politique, fiscale aussi, et révolte rurale, moins politique, plus désordonnée, plus sympathique aussi, parce que c'est vraiment le petit peuple de la paysannerie qui se révolte, mais les deux sont soumis à la même répression, et c'est le moteur à explosion qui fait avancer la France.
François Lannevaille, ce moteur à explosion, vous l'avez observé ?
Bah oui, c'est indéniable, et la typologie de Christophe est très juste. Moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est la structuration sociale des révoltes. C'est-à-dire, on évoquait les bonnets rouges tout à l'heure, mais dans mon souvenir, les bonnets rouges, c'est pas le petit peuple breton qui se révolte contre le centralisme parisien ou la taxe, l'écotaxe en l'occurrence, mais c'est l'ensemble de la Bretagne dans une alliance de classe parfaitement réalisée.
C'est les entrepreneurs.
Entre les PME. Je pense dans l'ère industrielle, ça change un peu, mais toute l'histoire des révoltes avant, la structuration, c'est pas seulement... C'est la lutte contre l'impôt, mais c'est pas seulement des révoltes de la misère, mais c'est aussi tous les gens qui ont intérêt à ce que le système perdure.
Bien sûr, il y a plusieurs strates parmi les révoltés. On trouve souvent des petits hobereaux, des petits seigneurs locaux qui prennent la tête de la foule, plus ou moins poussés. On trouve également, et c'est très important, le clergé. Quand le clergé, le clergé local s'associe à une révolte, ça montre sa légitimité.
Surtout en Bretagne ou partout ?
Partout. Ah, vous trouvez ça, par exemple, de manière très forte avec les Pitots.
Les Pitots
en 1548, on est dans le sud-ouest, vers l'Angoumois, le Bordelais. La gabelle leur est imposée par Henri II,
donc
roi
fraîchement
arrivé. L'impôt sur le sel, alors qu'ils en étaient dispensés. Révolte, révolte sauvage. On prend des villes jusqu'à prendre Bordeaux, où le représentant du roi est massacré. Et on trouve toutes les couches de la population jusqu'à une certaine aristocratie. Et la place du clergé. La preuve, c'est que quand la répression s'abat, on casse les clochers. On éteint les clochers, on descend les cloches, on les brise, on les fond, on rase les clochers. D'ailleurs, aujourd'hui, me dit-on, en Bretagne, dans la Bretagne intérieure, il reste des clochers rasés à moitié depuis 1675.
Mais la raison, c'est parce François que vous le racontez dans votre livre, le tocsin sonnait pour appeler à la révolte.
Exactement. Oui.
Et donc, étêté le clocher, c'était sanctionner l'appel à la révolte.
Exactement. Mais les prêtres, parfois, dans leurs homélies, faisaient honte au pouvoir central d'avoir taxé le peuple. Et donc, il y avait cette alliance, quand même, si j'ose dire, du sabre et du goupillon, mais du sabre, du goupillon et de la faux.
Une sorte de front de classe, comme on dit.
Il y avait un front de classe. Il y avait un front de classe. C'est ce qui différenciait les petits soulèvements locaux des véritables révoltes qui prenaient une structure sociale. Mais hélas pour elles, qui arrivaient très rarement à prendre une structure politique, c'est-à-dire à s'organiser.
Donc ce ne sont pas des révolutions.
Ce ne sont pas des révolutions, ni même des révolutions régionales, où on aurait pu penser une sorte d'irrédentisme ou de fédéralisme. C'est rarissime.
Oui, la Bretagne des bonnets rouges en 1675 ne souhaitait pas quitter la France.
Elle voulait être reconnue.
Oui, c'est ça,
cette France avec laquelle il y avait cette association. Il n'y a pas de volonté d'indépendance.
Voilà.
En tout cas, ce n'est pas au cœur de la révolte.
Alors, il y a cette question fiscale qui est très, 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 très importante. Y compris à notre époque contemporaine, vous évoquez dans votre livre, Christophe Barbier, dont je rappelle le titre, « Peuple de colère », c'est chez Fayard, vous évoquez la personnalité de Pierre Poujade. Alors Pierre Poujade, nous sommes en 1956, l'UDCA, qui était le parti de Pierre Poujade, qui a réalisé une percée électorale, puisqu'ils ont obtenu 2,4 millions de suffrages, 52 députés, dont 11 furent invalidés à l'Assemblée nationale, dont Jean-Marie Le Pen, qui faisait partie de ce groupe-là. Alors je voudrais vous faire écouter, pour voir votre réaction, Christophe Barbier. J'ai pu retrouver la marche de l'Union, c'est l'hymne des poujadistes, et pour l'anecdote, il faut savoir que cette version a été enregistrée par le label SERP, qui est un label musical fondé et dirigé par Jean-Marie Le Pen. On écoute la marche de l'Union, le chant des poujadistes.
Un mouvement de flamme est né à s'insérer. Un homme, une grande âme, par l'impôt écœuré. Frapper l'injustice, un jour s'est déchaîné. Sa fougue créatrice nous a tous entraînés. Oui, Poujade, d'un cœur magnanime, avec toi nous lutterons. Et la foi anime fait que nous triompherons. Nous menons un combat pacifique sous ta vibrante impulsion pour sauver la République et l'honneur de la nation. Venez sans cesse, ouvriers paysans, pour que l'Union progresse, venez grossir nos rangs. Décrétons sans attendre les états généraux, et nous pourrons prétendre à voir fuir nos bourreaux.
Voilà, c'était un hymne à la gloire de Pierre Poujade. Nous sommes en 1956. Pierre Poujade, originaire de Saint-Céré dans le Lot, on l'a entendu. Vous avez entendu comme nous, Christophe Barbier, ces phrases. Décrétons sans attendre les états généraux et nous pourrons prétendre à voir fuir nos bourreaux, vous qui peinez sans cesse, ouvriers et paysans, pour que l'Union progresse, venez grossir nos rangs. Qu'est-ce que ça disait de la France à l'époque? Christophe Barbier.
D'abord, on retrouve la même étincelle fiscale. Hein. Les polyvoleurs, c'est-à-dire les polyvalents, les inspecteurs du fisc, étaient la bête noire de Poujade. Poujade commence dans une révolte des commerçants artisans contre le harcèlement fiscal. Et puis, pour faire grossir son mouvement, il l'étend à d'autres revendications. Il y aura des revendications d'extrême droite, il y aura des revendications pour l'Algérie française. Puis, il y aura des revendications pour la ruralité dans sa globalité. D'ailleurs, on retrouve ça aussi avec d'autres mouvements plus tard. Les chasseurs commencent par défendre la chasse et puis après deviennent un mouvement de la ruralité. L'Alliance rurale, qui est aujourd'hui candidate aux européennes. Poujade essaye la même chose. Ça marche très fort.
Oui, c'est une vague.
Fiscalité, ruralité, ça devient une vague. Le 24 janvier 55, un an avant les élections que vous évoquiez, il rassemble 200 000 personnes à Paris, alors que Paris est inondé, qu'il y a de grosses pluies. Il arrive à faire peur à la République avec ce mouvement. Et donc, on a cela. Et on voit bien qu'il y a cette recherche révolutionnaire. Sortez les sortants, c'était le slogan des poujadistes. C'est bien une volonté d'aller jusqu'à la révolution, mais ça rate. Encore une fois, ça ne restera
pchit.
Qu'une révolte.
Qu'est-ce qui se passe,
ça fait pchit. Oh, ça se perd. D'abord, ça se perd dans l'hubris de son leader, qui passait beaucoup plus de temps à faire la fête qu'à structurer son mouvement. Ça se perd dans des embardées vers l'extrême droite. Alors, ce mouvement, au départ, n'était pas un mouvement qui était pour l'Algérie française ou d'extrême droite. C'est un mouvement qui était essentiellement social. Donc, une bonne partie ne va pas suivre son leader après 56, quand il va dériver vers une droite extrême et s'opposer notamment aux gaullistes. Rappelez-vous de Gaulle, lors de son premier conseil, il ne nous manque que messieurs Torres, Ferrat-Abbas et Poujade. C'est-à-dire le communiste, l'indépendantiste algérien et Poujade. Il est exclu de l'arc républicain, si j'ose dire, pour reprendre les mots de Macron,
comme on ne disait pas à l'époque.
Donc, il y a cette dérive-là. Ce qui rate aussi, c'est qu'ils obtiennent aussi gain de cause. C'est que le pouvoir comprend que, on peut s'opposer, réprimer, on envoie les gendarmes mobiles, et puis on comprend qu'il faut aller doucement, mettre la pédale douce sur le contrôle des artisans, être un petit peu plus tranquille avec les paysans. Déjà, comment
ça
se profiler.
Tout ça résonne beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va apporter comme réponse aux paysans en colère de l'ère Poujade? Eh bien, la PAC. En 58, vous avez la première conférence
la
en Italie qui
commune.
Va bâtir. Alors, l'Europe est à 6 à ce moment-là. Le Danemark est invité en sus et on bâtit une politique des prix. Vous retrouvez les mêmes mots qu'aujourd'hui. Garantir les revenus agricoles, attention à la productivité, baisser les coûts de production. Les mêmes mots qu'aujourd'hui sont déjà en 58 dans ce front de Stresa qui est la première conférence européenne agricole. Et ça, c'est la réponse des États à une colère verte qui surgit. Les États avaient d'ailleurs eu une première alerte dans les années 30.
Avec les
chemises vertes. Alors, de Dorgère. Alors,
rappelez-nous,
lui, partie du Nord.
Encore des couleurs.
Et encore une révolte rurale qui voulait se politiser. Et dire, voilà, nous sommes la légitimité, nous sommes la France rurale, nous les paysans. Eh bien, nous allons prendre le pouvoir dans ce pays où nous sommes majoritaires.
Ce qui était vrai à l'époque dans les années 30.
Ce qui était vrai à l'époque sociologiquement.
C'était démographiquement vrai, c'est ça.
Qui ne l'a pas été politiquement, parce qu'en même moment se structurait une gauche qui va donner le Front Populaire. Une gauche beaucoup plus urbaine, citadine, industrielle, et c'est elle
ouvrière.
Qui va obtenir la majorité politique. Dorgère va se perdre dans un vert qui deviendra un peu brun, avec notamment une donnée un peu antisémite dans la fin de son mouvement, et avec la guerre tout ça sera balayé. Mais vous voyez, les colères paysannes sont prises à la fois comme des réminiscences des jacqueries du temps passé, et en même temps, comme des ferments possibles pour les révolutions du temps présent. Et c'est ça qui effraie le pouvoir.
Le point commun quand on vous écoute et quand on vous lit, Christophe Barbier, c'est ces révoltes manifestent quelque chose de violent, elles obtiennent satisfaction et finalement ça s'arrête.
Ça s'arrête.
Toujours éphémère.
Oui, c'est éphémère parce que d'abord le pouvoir est malin.
Ah oui.
Même quand
les
il est brutal,
malins,
les pouvoirs
soient.
Sont malins,
oui.
Les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, ils ont une forme de brutalité, mais ils ont aussi une forme d'intelligence. Ils savent jusqu'où ne pas aller trop loin. Et en plus, ce sont des mouvements qui ont beaucoup de mal à avoir une tête politique. On l'a vu avec Poujade, qui était pourtant un formidable orateur et qui a emmené des députés jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas allé plus loin. Quand arrive 58, il comprend plus. Il voit pas comment le jeu a changé. Ouais. Il est complètement englouti par la cinquième naissante. Il reviendra vaguement dans les années 80 en se teintant de Mitterrandisme. C'est vous dire jusqu'où allait son anti-gaullisme. Mais la plupart du temps, on n'a pas l'intelligence politique pour structurer le mouvement et dépasser le corporatisme. Et les Gilets jaunes, ça a été la même chose.
Exactement.
Ils se sont
entre-dévorés. Aucun leader n'a pu émerger.
Aucun leader n'a surgi. Ouais. Ceux qui commençaient à être médiatisés étaient immédiatement désavoués par la base.
Et menacés de mort. Également.
Et menacé de mort pour certains, ce qui apparaissait pour eux comme une sorte de modernité. Nous ne sommes pas comme les autres, nous ne voulons pas faire carrière, nous n'avons pas de chef. Mm-hmm. En fait, c'était une faiblesse. Ouais. Parce que le chef, la tête, au sens propre, c'est fait pour mener, mais c'est fait pour penser. Et on n'a pas derrière de projet politique, de programme politique, de structuration qui permet d'inscrire ces mouvements
ça, donc,
dans le temps.
Et ça, donc, ça serait à vos yeux, Christophe Barbier, c'est une constante dans toutes les révoltes que vous avez auscultées.
Oui, dans les révoltes qui parviennent à devenir des révolutions. Oui. Et quand vous voyez, à partir des années 1770, la colère se construire autour de la guerre des farines, donc de la spéculation sur le blé, cette pensée économique physiocrate, donc libéraux, ou bien étatiste. Elle accouche d'une pensée politique. Quel est l'ordre social? Quelle est la légitimité de l'ordre politique? Et elle va donner l'apparition de parlements régionaux, la révolte des Tuiles à Grenoble en juin 1788, où le parlement du Dauphiné finit par faire céder le pouvoir central. On accepte que les états généraux du Dauphiné se réunissent.
Et c'est là où tout a commencé.
Et tout commence. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi que le Dauphiné? Ouais. Il y aura des états généraux partout. Et nous sommes partis pour les états généraux de 1789. Donc parfois, la révolte, il y a quelque chose qui se passe de mystérieux, un peu comme l'apparition de la vie entre deux accidents chimiques il y a des millions d'années. Quelque chose se passe qui
fait que... Une sorte d'alignement des astres?
Oui, et peut-être d'addition des compétences. C'est-à-dire, vous avez des intelligences économiques, des penseurs de l'économie qui vous expliquent qu'on peut fonctionner
les
autrement.
Les physiocrates
Necker, à l'époque,
Turgot.
Necker, Turgot. Cette belle bataille de conception économique d'un pays. Vous avez une réflexion politique. Est-ce que l'ordre politique est toujours légitime? Est-ce qu'il n'y a pas un ordre supérieur? Et vous avez, à côté de cela, une mise en mouvement de masse pour prendre le pouvoir. Parce qu'à un moment donné, ça se passe pas entre intellectuels, il faut que la masse descende dans la rue. Mmh. Et cette addition-là, vous l'avez rarement. Vous allez la retrouver en 1917. Hein. Et c'est ce qui va donner la révolution
en Russie. Oui,
il va y avoir la même addition d'intellectuels, de forces économiques et de la masse prolétarienne, militaire, pour obtenir cette révolution. Mais c'est rarissime dans l'histoire des peuples, particulièrement en France.
Alors, on va revenir dans un instant sur ces prémices de la Révolution française, mais je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez évoqué, Christophe Barbier, ce sont les jacqueries. Les jacqueries, il y a eu dans les années 1970-1969 ce grand feuilleton de Stelio Lorenzi, qui était un réalisateur communiste et adhérent au Parti communiste. C'est un feuilleton qui a mobilisé la France entière, qui s'appelle Jacou le croquant. Alors nous avons eu la curiosité d'aller regarder l'une ou l'autre séquence de Jacou le croquant. Je voudrais vous faire écouter cet affrontement verbal entre le régisseur du comte de Nansac, qui vient demander aux parents de Jacou le croquant, qui vient demander quelques moutons. Écoutez la tension qui s'exprime.
Tiens, mais tu ne braconnes pas, toi, aujourd'hui, hein? Ah, c'est vrai, oui. C'est fête. Dis donc, tu ne peux pas répondre quand on te parle, non? Tu as 8 moutons, hein? Eh bien, tu en apporteras 4 après-demain au château.
J'en dois plus que 2. J'en ai donné 2 à l'automne.
À l'automne?
Je vous dis que j'en ai déjà donné 2 à l'automne.
Ouais, bah tout ça, c'est des mensonges. Tu dois 4 moutons.
J'en dois 2, j'en porterai 2.
J'en porterai 4. Et c'est un ordre.
Vous n'avez pas le droit.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que vous n'avez pas le droit.
Et toi, quel droit de braconner, hein? Voleur!
Matissou!
Des droits de quoi? Des droits de te taire, oui.
Des droits de quoi? On voit la tension. Hein. Nous sommes dans les années 1820-1830 en Périgord profond. Que se passe-t-il là, Christophe Barbier?
Là, on voit bien que la thèse, c'est de dire que la Révolution est à refaire. Mm-hmm. Nous sommes après la Révolution française et la Restauration a tout rétabli. Les abus des seigneurs sur les
serfs. Nous sommes sous Charles X.
Qui
était un vrai réactionnaire.
Donc, exactement. Mm-hmm. Mais Les croquants, c'est beaucoup plus ancien.
Oui.
Jacques Croquant va devenir célèbre dans la population grâce à ce feuilleton. C'est le roman d'Eugène Leroy. Et ça se passe en effet au milieu du 19e. Mais les croquants, c'est fin 16e, début 17e. Dans cette même région, d'ailleurs, c'est surtout là, dans le Quercy, dans le Périgord, que ça explose. Pourquoi on les appelle croquants? Parce que dans l'imaginaire populaire, c'est l'étymologie la plus communément acceptée. Ils veulent croquer les aristocrates. Mmh. On les peint en sorte de vampires ou de cannibales, tellement ils sont déterminés. Et leur révolte est une révolte contre l'autorité seigneuriale, locale. Qui va protéger contre ce régisseur infâme ou contre ce seigneur qui veut des moutons? Le roi. On va aller chercher au-dessus la protection du roi. Et donc on n'est pas complètement dans une maturation révolutionnaire absolue. Très rarement, les révoltes paysannes remettent en question la légitimité du roi, qui est le protecteur du peuple, et il est de droit divin. Ouais. En revanche, qu'est-ce qu'il est mal entouré? De mauvais ministres et des aristocrates locaux qui, eux, sont impies et criminels et abusifs. Ouais. Et donc, on va chercher le roi jusqu'au jour où on se rend compte que c'est peut-être en faisant tomber le roi qu'on va obtenir la justice. Et ça sera la vraie, la grande révolution.
Il faudra des siècles pour arriver là.
Ben voilà, il faudra 1789, et pour Jacou, il faudra 1848, ou au moins 1830 pour faire un progrès. Et les croquants, là aussi, illustre bien ce problème de la révolte. Parce que ils arrivent localement à entretenir une révolte, mais la répression est terrible. Le mot croquant a acquis sa célébrité après 1643 autour de la révolte de Jean Petit. Jean Petit avait quelques complices, dont Guillaume Bras, il y avait un cordonnier, il y avait un barbier, c'était des petits artisans locaux. Ils mènent leur révolte. Oui. Ça marche pendant quelques temps, les villages se soudent avec eux, ils veulent mettre fin à la domination de l'aristocratie locale. Sauf que ça perturbe la royauté centrale, qui est déjà troublée parce que Louis XIII vient de mourir, et donc on est avec un roi qui a 5 ans, qui s'appelle Louis XIV. Donc faut pas plaisanter, on ne tolérera pas de révolte, on réprime. Jean Petit va être dépecé après son exécution. On va mettre ses membres accrochés aux quatre coins des villes qui se sont révoltées. Et donc on va suspendre ses membres qui vont se balancer au gré du vent. Et ça va donner une chanson, Jean Petit qui danse, de son bras il danse. Et son bras, c'était son bras qui pendait, mais aussi son associé qui s'appelait Guillaume Bras. Et cette chanson, vous la trouvez encore dans les comptines aujourd'hui enseignées aux enfants, qui le chantent tout innocemment, ne se souvenant plus de l'horreur que ça représente. Jean Petit qui danse. Vous entendez ça dans les écoles maternelles aujourd'hui. C'est dire si cette mémoire des croquants, par-dessus Stelio Lorenzi, remonte à un XVIIe siècle profond.
Alors vous écrivez, Christophe Barbier, dans votre livre « Peuple de colère » chez Fayard, vous écrivez « Les colères agricoles ont été les métronomes de l'ancien régime, mais ces métronomes continuent de battre la mesure des temps modernes. »
Oui.
C'est une constante.
C'est une constante. Regardez, malgré la perte de substance sociologique du monde rural, et des agriculteurs. Ils sont plus que quelques pourcents aujourd'hui de la population active française. Regardez quand ils se révoltent, quand ils sortent le tracteur, qu'ils viennent sur les autoroutes, la sympathie que cela entraîne. Mmh. Les Français, sans même trop regarder de quoi il est question, ils sont solidaires.
Une sorte de nostalgie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la nostalgie, évidemment, on a tous des attaches rurales et on se dit que c'était quand même bien mieux la vie au grand air et à la nature. Il y a le remords d'avoir tourné le dos à cette France pour se jeter dans la France de l'industrie et maintenant du numérique et des hypermarchés. Et puis, il y a quelque part, j'en suis sûr, le cerveau reptilien politique français qui se dit, quand on obtient quelque chose dans ce pays, c'est que les paysans sont sortis de leur grange pour crier leur colère. Et donc cette idée que la jacquerie est encore le premier maillon, la première marche vers le progrès, ça reste une idée forte chez nous.
Peut-être aussi parce que, comme on disait, entre 1939 et 1944, la terre, elle, ne ment pas.
Oui, c'est peut-être aussi une explication. Il y a sans doute une dimension identitaire.
Une sorte de fascination.
Il y a une fascination. Ouais. L'idée que l'authenticité du peuple français, sa racine au sens propre, elle est forcément dans la terre. Et c'est d'autant plus une idée à laquelle les gens s'accrochent qu'on voit bien qu'avec la mondialisation, la réalité nous en éloigne. Et évidemment, ça crée un trouble presque psychologique, psychiatrique dans notre population.
Oui, une sorte de schizophrénie. François Annenwein, vous avez vu au fil de vos 30 ans d'observation de la vie politique, vous avez vu les colères agricoles, les révoltes agricoles?
Oui, alors je vais commencer par la remarque standard. Franchement, on proteste contre une méga bassine, on envoie des camions entiers de CRS mettre de l'ordre. On est dans une révolte agricole, on bloque les autoroutes, on arrache les barrières. La force publique reste relativement passive. Donc on voit bien aussi que le rapport de force et puis aussi le climat général du pays invite les gouvernants à la prudence face aux révoltes agricoles.
C'est ce qu'avait dit clairement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le modéliser à ce point-là,
ça a été dit explicitement.
La lutte contre le désordre d'un côté, de l'autre côté, modéliser une sorte de bienveillance parce que la lutte serait légitime, est intellectuellement problématique.
Quel est le seuil de légitimité ?
Voilà, exactement. Voilà. Donc, ça conforte la thèse de Christophe Barbier. Il y a une empathie en France, moyenne, on va dire, pour la révolte agricole. Mais, contrairement... Enfin, pour compléter la réflexion de Christophe, si je puis m'y risquer, je pense que la question de la figure qui incarne un mouvement est importante. Mais pour réfléchir au monde agricole, on peut aussi faire l'hypothèse que, intellectuellement, la crise de l'agriculture est mal pensée aujourd'hui. C'est-à-dire, le débat se poursuit entre les intrants et une agriculture... plus raisonné et raisonnable, et le débat se poursuit. Donc il n'y a pas de théorie globale de l'avenir de l'agriculture en France. Donc le débat se poursuit, mais insoluble entre ceux...
Sans être pensé.
Sans être véritablement pensé. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on est dans une impasse, et d'une certaine façon se cristallise une forme d'opposition entre les écologistes et le monde agricole, alors que... Franchement, les attentions des uns et les attentions des autres, s'il y avait une réflexion commune, pourraient contribuer à bâtir un modèle raisonnable et nécessaire pour notre temps.
Vous évoquez le fantôme de la cogestion, là, non ?
Non, du dialogue, encore une fois, du compromis démocratique. Mmh. Les points de vue s'opposent et on essaye de trouver des solutions.
Oui, mais ça n'a pas l'air de se passer comme ça, Christophe Barbier. Nous sommes victimes de cet héritage de la confrontation, toujours ?
Oui, parce que je pense qu'il y a en chaque camp, si j'ose dire, des forces centrifuges. Il y a chez les agriculteurs beaucoup d'agriculteurs intensifs et de puissance économique en costume cravate dans les bourses, donc pour lesquels l'agriculture raisonnée, c'est pas du tout l'avenir. Ils sont quand même très puissants et ils contrôlent quand même pas mal le mouvement. Puis du côté des écologistes, il y a aussi une frange qui est dans une réflexion politique pure et qui veut simplement la fin du capitalisme,
voilà,
voire la décroissance, la raréfaction de l'espèce humaine. Enfin bref, toute une série d'idéologies dogmatiques, et c'est pas ceux-là qui vont chercher le consensus.
C'est difficile de faire en sorte que tout ce monde-là se parle.
C'est très difficile. Là encore, ça manque de leader, parce que c'est le leader aussi qui peut donner le chemin et forcer à la convergence. Et puis peut-être aussi qu'il manque, et c'est souvent le cas dans notre pays, que la situation soit vraiment tragique, catastrophique, désespérée.
Ah oui.
C'est souvent dans ces moments-là, en France...
Il faut attendre ce moment-là.
...qu'on réagisse. Soit par un changement complet, une révolution, on change de système, soit au contraire par une sorte d'union sacrée, on s'entend, parce qu'il faut sauver la patrie.
Alors, vous évoquez la révolution, Christophe Barbier. On va aborder la question économique, la question du blé, la question des farines, la question du protectionnisme, la question du libre-échange. Toutes ces questions ont été à l'origine de notre révolution. Vous écrivez, Christophe Barbier, le pacte frumentaire, donc autour des céréales, régit de façon séculaire l'attachement du peuple au souverain. Sauf qu'il y a un moment, ça ne marche plus.
Ça marche plus. Ça marche plus quand le souverain ne peut plus intervenir de manière efficace, voire quand il est soupçonné de lui-même trafiquer le cours du blé ou la circulation du blé à son profit. Ce pacte-là, il est quand même multiséculaire.
Oui.
Le roi était celui qui devait protéger le peuple contre les invasions et contre la famine. Et il n'était contesté, ce roi, dans sa légitimité, que quand il était en échec avec l'un, la guerre de Cent Ans, ou avec l'autre, les grandes famines. Regardez comment Louis XIV prend un soin précis à détourner des bateaux de blé pour être sûr qu'aucune région ne va se révolter pour cause de famine. Mmh. Et en 1775, le Louis XV puis Louis XVI vont perdre la main complètement là-dessus, en tentant l'expérience de libre circulation, qui avait de vrais fondements intellectuels. D'ailleurs, elle a plus tard marché très bien dans des tas de circonstances, mais qui à l'époque était inadaptée, parce qu'on n'avait pas les outils au bon établissement d'un commerce à prix raisonnable du blé dans les provinces françaises.
Aujourd'hui, quand on est contre le Mercosur, cet accord de...
On retrouve la même chose. L'idée d'avoir une concurrence qui ne soit pas déloyale, et l'idée surtout qu'à aucun moment on risque d'avoir une assiette vide parce qu'on ne peut plus se la payer. Alors en France, ça a pris une résonance diverse aujourd'hui parce qu'on ne meurt plus de faim dans notre pays. On meurt encore de froid, mais plus de faim.
Ou de malbouffe.
Néanmoins, la question de la nourriture et du prix alimentaire est au cœur de la réflexion sur l'inflation.
Oui, et comme elle l'a toujours été.
Comme elle l'a toujours été. Oui. Dès qu'on est dans un problème d'inflation, qu'est-ce qu'on va voir au supermarché ? Le prix des pâtes.
Oui, voilà.
Et c'est ça qui est l'indicateur. Alors qu'on a d'autres choses, on a le logement, on a le carburant, on a les vêtements. Non, l'angoisse, elle est sur la nourriture.
La nourriture,
mais
François
Nolvain. Là, vous avez raison, la tension se cristallise actuellement sur le prix du blé, notamment du blé ukrainien importé. Et la conséquence.
D'une part, on nous explique qu'il faut soutenir l'Ukraine économiquement, et d'autre part, on dit on veut pas du blé ukrainien.
En tous les cas, là, j'ai entendu des agriculteurs protester contre les importations de blé ukrainien. Et le refus de la concurrence avec les producteurs ukrainiens, parce qu'ils produisent beaucoup moins cher que les agriculteurs français. Mais l'intéressant politiquement, c'est que ça nourrit le discours contre l'Europe, alors que les agriculteurs sont les principaux bénéficiaires de l'Union européenne, et aujourd'hui ils produisent un discours hostile à l'Europe. On est en pleine contradiction, et c'est pour ça, moi je reste convaincu, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, dans le fondement des révoltes ou des réussites des révoltes, la conceptualisation, l'aboutissement intellectuel dans la capacité à penser les situations qu'on traverse. On prenait l'exemple de la Révolution française. La Révolution française, elle est née du mouvement de tout ce que vous évoquiez, mais elle est née aussi du travail des encyclopédistes, elle est née du foisonnement intellectuel
des Lumières.
Et les ruptures se produisent aussi quand la pensée collective s'est nourrie d'idées nouvelles.
Oui.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier. Notre question aujourd'hui, les Français sont-ils un peuple de colère? Nous sommes en écho avec le travail du journaliste Christophe Barbier qui publie chez Fayard un livre très intéressant intitulé « Peuple de colère » et qui met en parallèle justement toutes ces colères, toutes ces révoltes qui ont traversé notre histoire et qui essayent d'en dégager les échos pour aujourd'hui. Il y a des colères qui ne sont pas uniquement des colères populaires, Christophe Barbier, il y a aussi la fronde que vous évoquez. La fronde, je rappelle les dates, 1648, 1653, et vous écrivez, Christophe Barbier, le départ de Charles de Gaulle en avril 69, c'est une fronde qui réussit. Alors, expliquez-nous le parallèle.
Les révoltes arrivent parfois par le haut. On a beaucoup parlé des paysans, des pauvres, de la misère qui poussait à la révolte, mais parfois ça arrive par le haut. C'est-à-dire que les aristocrates, le premier cercle ou le deuxième cercle autour du pouvoir central, se sent attaqués. Soit attaqués dans ses privilèges, soit attaqués dans son économie. On a, pendant tout le XVIIIe siècle, tenté de créer des taxes sur les revenus de ces aristocrates, ça a toujours échoué. Soit attaqués dans sa relation au roi. Voilà. Qui t'a fait duc, qui t'a fait comte, qui t'a fait roi. Hein. C'est le fameux mot de Hugues Capet. Et dans ce cas-là, on essaye de se révolter. Alors, il faut pas confondre la révolte avec le putsch. Des putschs, il y en a toujours. On essaye d'assassiner le roi, de mettre à sa place un cousin. Non, je mets ça de côté. La fronde, c'est véritablement une révolte. C'est-à-dire, c'est une caste sociologique, les parlements et les princes au XVIIe siècle, qui va décider de se débarrasser du roi ou bien de le dominer et de lui dicter ce qu'il doit faire. On a la même chose avec Charles de Gaulle qui, après avoir réglé le problème de la guerre d'Algérie, voit se révolter contre lui la noblesse d'argent de la droite gaulliste, ceux qui vont triompher plus tard avec Pompidou, qui avaient évidemment soutenu de Gaulle parce que la 4ème République nous menait à l'abîme. Mais une fois réglé le problème algérien, ce de Gaulle, il empêche un peu de faire des affaires. D'abord, il n'est pas assez pro-américain, il est un peu trop équilibré avec les soviétiques, il n'est pas assez libéral. Il est trop étatique, donc faudrait un petit peu le calmer.
Il est un peu social,
il veut faire la participation, donc faut se débarrasser de lui, ou du moins le faire rentrer dans le rang. Ça tombe bien, il y a eu une espèce de pseudo-révolution de gauche, mai 68, qui l'a un peu affaibli. Donc en 69, on va le pousser dehors. Et le référendum de 1969, c'est l'alliance de plusieurs droites, la droite giscardienne, très libérale, la droite pompidolienne, qui attend son heure, et qui est liée au milieu de la banque, donc c'est le gaullisme de la finance, et ceux-là vont faire en sorte, non pas de commettre un crime de lèse-majesté, c'est de Gaulle, mais d'être dans le soutien sans participation, ou le oui-mais au référendum. Qu'est-ce qu'un oui-mais? C'est un appel à voter non, ou bien à s'abstenir. Et ça provoque la chute de Gaulle, par ailleurs roi fatigué, en avril 69. Et là, c'est bon, ils vont pouvoir prendre le pouvoir. La dernière faute de Gaulle vis-à-vis d'eux, ça a été la non-dévaluation. Tout le monde attend, après l'été 68, une dévaluation. À tel point que l'Express, à l'époque, avait déjà titré sur la dévaluation, bouclant avant le Conseil des ministres, mais paraissant après, tellement c'était sûr. Et puis au Conseil des ministres, de Gaulle, il pique un coup de colère, dit « bah non, je vais pas dévaluer ». Or, tous les milieux patronaux et financiers attendaient la dévaluation. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en mai 68, avec le Grenelle, on a donné 30% de hausse du SMIC. Comment on rattrape cette hausse? Par une dévaluation. Et hop, les 30% ne valent plus grand-chose, ne coûtent plus grand-chose. Il ne fait pas la dévaluation. Alors là, faut s'en débarrasser. Et 69, ça va être ça. Ça va être cette droite aristocratique des princes de l'industrie et de la banque qui vont se débarrasser du souverain. à la manière douce. Oui. Ah, il a perdu le référendum, il s'en va.
Sous couvert de référendum.
On met Pompidou. Mais, et avec Pompidou, la machine va repartir.
Ce qui est intéressant dans votre description, c'est que l'histoire politique ne met pas tellement de projecteurs sur cette bascule.
C'est, oui, très peu, effectivement.
C'est une partie un peu cachée de la sortie du gaullisme.
On nous dit que c'est de la continuité Pompidou après De Gaulle, mais c'est une rupture.
Non, c'est une rupture, oui, c'est ça.
Sur cet aspect-là des choses, c'est spectaculaire.
Alors, il y a également un autre aspect dans votre livre que vous évoquez, un autre fil que vous suivez, Christophe Barbier, c'est le fil religieux. Alors, vous évoquez les albigeois, vous évoquez à leur sujet une sorte de féminisme médiéval, mais vous allez plus loin, vous expliquez le protestantisme est un catharisme qui a réussi dans sa conquête du pouvoir. Alors, racontez-nous, Christophe.
Oui, alors, thèse audacieuse, et je veux bien être contesté sur ce point-là. Qu'est-ce que je vois derrière les albigeois, qu'on a appelé beaucoup plus tard les cathares? Nous sommes au XIIIe siècle, et puis il y a une sorte de secte, en tout cas de déviance de l'Église catholique, qui veut vivre dans la pureté, et qui considère que ce qui se passe à Rome, c'est une infamie, et que tout ce clergé est bon à jeter aux enfers.
Ce qui n'était pas tout à fait faux.
Et donc, on va vivre dans la pureté, mais une pureté qui va très loin, puisque pour ne pas être tenté sexuellement, faut vivre avec quelqu'un du même sexe. Alors, ce qui est perçu par eux comme la non-tentation est vu de l'extérieur comme l'homosexualité. Mmh. Ils vivent en couple de femmes ou en couple d'hommes. On les appelle donc des bougres homosexuels. Donc, ça vient de Bulgare, où il y avait là une secte qui ressemblait aux catharistes. Donc, vous voyez la fusion des mots. Et puis, l'ordre social. Mmh. Si on est de bons chrétiens, il n'y a pas d'ordre social. Donc, on vit au milieu des artisans, au milieu des paysans. Tout le monde travaille. Et même les nobles, et notamment les femmes de la noblesse, eh bien, elles vont prendre leur métier à tisser, elles vont travailler.
Donc, c'était vraiment révolutionnaire.
C'était vraiment révolutionnaire.
Et donc, insupportable.
Insupportable. Mmh. Pour deux entités. L'entité religieuse, le pape, et l'entité politique centrale à Paris. Et donc, on se ligue pour envoyer Simon de Montfort et quelques autres écraser le catharisme. Et ça va donner la victoire du Nord, organisée, étatique, la langue d'Oyle, sur le pays d'Oc. Le pays d'Oc qui avait sa langue, sa culture, son mode de justice, sa relation à la religion, et qui va être écrasé par les puissants du Nord. À tel point que l'abbé Sieyès, quand il écrit « Qu'est-ce que le tiers-état ?», va expliquer qu'il faut se révolter contre les Germains qui sont au pouvoir à Paris.
Déjà.
Et il voyait l'aristocratie sommitale comme les descendants des seigneurs du Nord. Il voulait la révolte du bas contre le haut, c'est-à-dire du Sud contre le Nord. Et cette révolution cathare, elle est écrasée dans cette domination politique du Nord sur le Sud. Que vont faire les protestants ? De manière plus subtile,
plus tard,
avec le même objectif,
plus tard,
plus de 300 ans après, avec le même objectif politique à la fois de purifier l'Église et d'être dans la contestation de l'ordre établi, ils vont être beaucoup plus malins, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus structurés, beaucoup moins caricaturaux, et ils vont presque réussir. Ils vont réussir en Allemagne, ils vont réussir en Suisse, ils vont réussir dans de nombreux pays,
dans la moitié de l'Europe.
Ils vont réussir après aux États-Unis, mais en France, ils vont échouer, de peu. Ça s'est joué à peut-être Henri IV qui considère que Paris vaut bien une messe, peut-être aussi aux descendants d'Henri II qui étaient peu efficaces politiquement, peut-être à l'assassinat du duc de Guise, on ne sait pas. Mais à un moment donné, la bifurcation ne se fait pas.
Vous pensez que la France aurait pu basculer dans le protestantisme
ça s'est
et donc
joué un
dans
cheveu.
Un autre système de pouvoir?
Ah oui, ça s'est joué à un cheveu. La paix de Saint-Germain était quelque chose de très stable. Mmh. L'édit de Nantes était quelque chose de très stable. Si à partir des cités que les protestants avaient obtenues, ils avaient fait des émules par l'exemplarité de leur réussite économique. Et si l'édit de Nantes avait tenu encore un peu, si Louis XIV ne l'avait pas supprimé, peut-être qu'on aurait eu tout doucement une France convertie au protestantisme. D'ailleurs, la société civile est devenue protestante.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la réussite matérielle, les valeurs de bien et de mal, finalement, notre société a accepté grosso modo comme éthique ce qui était le protestantisme. Oh, on n'est pas totalement dans Max Weber. Oui. On n'est pas allé aussi loin dans la réussite capitaliste et pas aussi loin dans le projet protestant. Mais tout de même, la société civile a été beaucoup plus protestante que la société politique. Mm-hmm. Notre pouvoir politique est resté très, très catholique.
Très absolutiste.
Très absolutiste. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Emmanuel Macron faire la restauration de Notre-Dame, un moment fort, peut-être le plus grand, de son double quinquennat. Ah, mais la société civile, elle est devenue assez douce pour être considérée comme protestante.
François Hanenwein, vous qui connaissez bien le protestantisme.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce que ça montre le point d'équilibre de la société aujourd'hui ne ressemble pas aux discours qui sont tenus sur cette société.
Exactement.
Il y a une diversité, une richesse et des aspirations qui ne ressemblent pas au discours politique dominant aujourd'hui. Sur la sécurité, Aujourd'hui, il y a une demande sociale de sécurité, mais elle n'est pas aussi obsessionnelle que les différents pouvoirs ou candidats au pouvoir semblent la décrire. Je pense qu'il y a plein de sujets extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, ça me permet, je prends peut-être un peu d'avance, à discuter votre conclusion. Si je résume, vous me démentirez si je me trompe. Votre critère principal, la France continue à être mûre pour les révoltes, mais absolument inaccessible à l'idée ou au concept de révolution pour des raisons simples. L'État est protecteur, la répression n'est plus aussi forte.
Et nous sommes vieux.
Et nous sommes vieux, oui. Et la consommation, les facilités,
la distraction
au sens pascalien, a tout envahi. Cette remarque est très juste. On peut considérer que la société est molle, globalement molle, face aux grands défis contemporains, l'écologie, le partage des richesses, etc. Il n'y a pas de discours construit. Mais si vous interrogez les Français de manière un peu plus subtile, et ça rejoint votre remarque, ils sont tous devenus protestants ou presque, c'est ça. Il y a aujourd'hui dans la société française une sorte de consensus qui, pour le nommer politiquement, ressemble à une aspiration à une social-démocratie paisible, mais qui ne ressemble absolument pas au discours politique dominant. Et un des aspects intéressants et qui permet de contester un peu votre thèse de l'endormissement global de la société, c'est qu'au bout d'un moment, cette demande sociale, elle s'exprime, elle se vit à travers le pays. Et au bout d'un moment, il y aura peut-être la quête d'une adéquation entre la gouvernance politique et l'aspiration profonde des gens. Il y a une contradiction aujourd'hui en France entre le désir majoritaire et le régime politique ou le discours politique dominant.
Et pourtant, il y a ces bulles de violence régulières dans la France contemporaine, quand même. Même dans une France assoupie, anesthésiée.
Mais
j'aime
pas raconter ma vie, mais je vais prendre un exemple. J'ai un projet autour de la paix dans la ville de Montreuil. Et quand on observe la cohabitation de plus de 100 nationalités à Montreuil, le lien social, l'activité des associations, etc., on a un terreau très fertile, participatif pour beaucoup de gens à Montreuil.
Donc c'est possible.
Et le discours est radicalement différent de celui d'autres communes dans la Seine-Saint-Denis, où quand les maires interrogent les populations, c'est pour leur demander s'il faut plus de forces de police ou plus de commissariats, plus de police municipale, etc. Ouais. Quand on limite le débat à ces enjeux-là, au lieu d'essayer d'imaginer quelle est l'aspiration globale des gens à la paix, à une vie paisible, eh ben on rate un certain nombre de sujets.
Alors Christophe Barbier, à quoi la France est-elle prête? Est-elle prête à la révolution, à la révolte ou à la démocratie libérale?
Je développe cette thèse de la fin de l'âge des révolutions chez nous. Je serai démenti par la prochaine révolution.
Ou par la prochaine révolte.
Mais sur quoi je m'appuie? Outre le fait qu'en effet, l'État protecteur avec la sécurité sociale depuis 1945, le vieillissement de la démographie, il faut être jeune pour faire des révolutions parce que c'est physiquement dur.
Quand on est
dur.
Vieux, on n'a pas envie.
Et puis l'âge des distractions, où on est plongé dans nos écrans toute la journée, et puis quand ce n'est pas les écrans, c'est les parcs d'attractions. Tout ça me semble avoir anesthésié durablement, voire définitivement, notre prurite révolutionnaire. J'y ajoute deux choses. Pour faire la révolution, c'est-à-dire vraiment la table rase, il faut n'avoir rien à perdre. C'est Gavroche qui va mourir de faim, il monte sur la barricade, quitte à mourir, autant mourir en se battant. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a quand même un petit quelque chose à perdre. Un petit bout d'allocation, un petit bout de RSA, un petit bout de propriété. Est-ce que ça vaut le coup de perdre le peu que j'ai pour un tout qui me semble hypothétique?
Oui, mais certains mettent le feu aux écoles, aux bibliothèques.
Voilà, le bien public. Mais pourquoi faire? Pour faire des vidéos qu'on met sur Instagram et sur Snapchat. Donc c'est pour retrouver une reconnaissance et puis pour négocier. Et puis d'ailleurs, quand on les attrape, il n'y a pas de projet politique derrière. Ils ne voulaient pas la révolution.
Clairement.
Ils voulaient juste brûler l'arrêt de bus. Voilà, c'est comme ça, pour se faire entendre. Donc Jean Viard en a fait un livre récemment. C'est complexe. La dernière raison, c'est que le menu révolutionnaire, l'offre révolutionnaire qu'il aurait proposé, me semble aujourd'hui extrêmement pauvre. Parce que d'un côté, vous avez la révolution citoyenne à la Mélenchon, donc une espèce de prolongation de la commune, de résurrection de la commune.
Démocratie directe, mandat impératif.
Voilà, où on mélange un peu de Fidel Castro, de Mao, de Trotsky et puis de Robespierre et
Louis
Michel.
Ça, c'est clairement affiché quand même.
Voilà, c'est affiché. Je ne vois pas dans la population une réelle aspiration profonde et majoritaire à cela. Et puis l'autre révolution, qui est une forme de contre-révolution, c'est c'est la révolution sécuritaire et identitaire, qui est en effet un bruit de plus en plus dominant,
qu'on
bien, que,
monter,
bien oui. que disparate, pour dire revenons en arrière. C'était mieux avant. Avant 68, avant 1789.
Fermons les frontières.
Fermons les frontières. Bon, et ça me semble une révolution totalement stérile. Par ailleurs, je pense que c'est un combat d'arrière-garde et qu'il est déjà perdu.
Mais
donc je ne vois pas.
Probable, plus probable que l'autre aspect que vous évoquiez
non,
il y a un instant.
Pas non. plus probable comme non. révolution au sens de renversement violent par oui. les barricades et la prise du pouvoir. En revanche, le débouché dans les urnes est plus probable pour cette deuxième révolution, qui est en fait surtout une réaction, parce que elle s'adresse à des catégories de population qui votent. Alors que l'autre révolution s'adresse, essaye d'aller chercher des abstentionnistes, et notamment pour Jean-Luc Mélenchon, le dernier stock d'abstentionnistes, c'est-à-dire les banlieues de l'islam oui. qu'il espère
il
gagner
a,
à son
il,
vote
il a misé
révolutionnaire,
là-dessus.
Il a misé là-dessus oui. pour faire la différence. Les fameuses 400 000 voix qui lui a manqué la dernière fois, il veut les trouver là, et je pense qu'il ne les trouvera pas.
Oui.
Tandis que pour la révolution réactionnaire, parce que c'est une révolution, on veut renverser le régime, on ne croit plus dans la Ve République, mais c'est réactionnaire parce qu'on veut revenir à un temps passé, là il peut y avoir un débouché électoral, avec à mon avis la même certitude pour moi d'échec s'ils arrivent au pouvoir, parce qu'il n'y a pas de projet d'avenir. Donc j'écarte cela, donc je pense que la France, pour les décennies qui viennent, va continuer avec ce petit moteur à explosion occultant oui. des révoltes.
Oui.
Alors les gilets jaunes, c'était France urbaine, les agriculteurs, la France rurale, ah ben les banlieues, en juin 2023, alors la France vraiment, vraiment
Donc ça
urbaine.
Va continuer à occulter.
À occulter, qu'un cas, on continuera oui. à avancer. Jusqu'au jour où peut-être
ou dans les
un
urnes.
Leader, oui. une union nationale, un consensus nous entraînera vers autre chose. Mais on peut aussi changer de véhicule. Et au lieu de faire hoqueter à coups de révolte le véhicule France, se dire allez, on va être dans le grand bus impérial qui s'appelle l'Europe. Mmh. On va essayer de construire cet État européen, cette nation européenne, parce que finalement on partage les mêmes valeurs que les Tchèques ou les Estoniens. Mmh. On le voit récemment. On partage pas tout, mais on partage beaucoup.
Voilà un beau rêve d'avenir, François Hanenwein, le bus impérial, on va l'emprunter.
L'image est jolie et oui. miser sur l'Europe me paraît extrêmement oui. intéressant. Mais je voudrais vous poser une question
Très
qui
rapidement.
Interroge les responsables politiques. Quand vous décrivez cette polarisation aux deux extrêmes, telle que vous venez de la décrire, est-ce que les gouvernants doivent emprunter aux uns et aux autres des éléments de discours? Est-ce qu'il n'est pas raisonnable, si vous êtes d'accord avec le postulat de départ, que la France recherche une forme d'équilibre politiquement, est-ce qu'il est raisonnable de sacrifier à l'une ou l'autre des polarités?
En face à ces polarités, Macron a tenté le « et en même temps
oui. »,
qui était une sorte de nini, une extrême gauche, une extrême droite. On voit bien qu'il penche à droite maintenant, qu'il doit grignoter un peu de tous les côtés. C'était donc pas une solution vraiment pérenne.
Oui.
Donc il faudra encore une fois un dépassement, un peu comme le gaullisme l'a été, être au-dessus de la mêlée. Mais pour être au-dessus de la mêlée, il faut qu'il y ait mêlée. Et donc, est-ce que la mêlée, ça sera ce choc à un second tour de présidentiel Mélenchon-Le Pen?
Eh bien, ça sera notre prochain rendez-vous, peut-être.
Peut-être.
Un grand merci à vous, Christophe Barbier, pour nous éclairer à travers l'histoire. Je rappelle le titre de votre livre « Peuple de colère ». Peuple au singulier, colère au pluriel, c'est chez Fayard. Et c'est tout à fait enrichissant de voir comment notre cher et vieux pays a toujours fonctionné comme un moteur à explosion.
Merci beaucoup à vous.
Un grand merci également à François Hanenwein, ancien rédacteur en chef à La Croix, qui est venu approfondir notre réflexion également. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités, en particulier de Christophe Barbier, dont je rappelle qu'il est tous les lundis au Théâtre de Poche à Paris pour un spectacle musical autour de Mozart. Voilà, c'est autre chose que le moteur à explosion de la politique. Vous pouvez retrouver tout cela sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Un grand merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci.